Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. La dernière fois que j'ai partagé, c'était au mois de mai, si je ne dis pas de bêtises, et j'avais partagé sur Marcher dans l'amour, la partie 1. Et j'avais dit que, voilà, parce que je n'ai pas pu tout partager, puis entre-temps, il y a Dieu qui fait un travail aussi à l'intérieur de moi, puis du coup, j'appelle le message de ce matin Marcher dans l'amour, la partie 2. Et on va aller un peu plus en profondeur. Et j'ai envie de vous emmener avec moi, mais je crois que plus que ça, c'est Jésus qui veut nous emmener avec lui et qu'on soit vraiment dans la même attitude de cœur et la même atmosphère qu'il y a eu dans le temps de louange, parce que je crois que c'est une continuité et voilà, que le cœur de chacun, que nos cœurs soient ouverts pour recevoir l'interpellation que Jésus il veut donner à chacun ce matin. Donc la dernière fois j'avais partagé l'amour, je fais juste un petit récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas là, l'amour une voie par excellence, j'avais dit que le mot grec dans la fin de 1 Corinthiens 12 qui parle de la voie, c'est odos, c'est le même mot qui est cité dans Jean quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité, la vie, donc Jésus c'est la voie par excellence, l'amour est la voie par excellence et l'amour est une personne. La personne de Jésus. J'avais parlé aussi, mais c'est quelque chose en communauté avec les responsables de l'Église qu'on est en train d'installer, qui est en train de s'installer, qu'on veut établir une nouvelle norme, qu'on veut établir quelque chose de l'état d'une culture au niveau de l'amour. Et j'avais cité dans Romains 12, si vous avez à cœur chez vous de lire ce passage, vraiment je vous encourage et de demander vraiment à Dieu une révélation personnelle sur ce passage-là. J'avais parlé en fait du mot qui est cité, qui parle de l'amour fort qu'il y a entre les frères et les sœurs dans une communauté, dans une église. C'est la seule fois dans le Nouveau Testament que ce terme-là est utilisé en grec et c'est le mot Philadelphia. Et j'avais pris en fait l'image du fromage, le Philadelphia, je ne sais pas si vous connaissez. Hein, qui s'étale et qui va partout, qui est aussi bien sucré que salé, qui se répand partout. Et voilà, ce terme-là pour dire qu'on peut mettre un nouveau standard, c'est leur slogan en fait. Aux États-Unis, la marque, ils ont un slogan qui dit Philadelphia, poser un standard. Et puis tout à l'heure, en cherchant avec Lionel, on est tombé sur une autre image, si tu peux la montrer, une autre pub que. La vie est faite de moments qui sont riches, qui valent la peine d'être partagés. Philadelphia, sans le moment, vas-y. Et je crois que ça va encore plus loin que ce que j'avais trouvé la dernière fois. Voilà, si jamais pour ceux qui avaient manqué, vous avez de quoi vous rattacher. Et je pense que c'est vraiment ce que Dieu il veut libérer au milieu de nous. Et je crois que c'est pour cette saison, pour la communauté de l'oratoire. De vivre cet amour Philadelphia les uns avec les autres pour le libérer aussi à l'extérieur, de poser une nouvelle culture, vivre dans cet amour-là, un style de vie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, on dit des fois que la culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Et je crois que là, en fait, on peut vraiment le dire avec l'amour Philadelphia, qu'on veut vraiment l'étaler dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans toutes les dimensions de la communauté et à l'extérieur. Que ça soit une réalité, parce que Jésus qui a marché sur terre, ça a été une réalité pour lui, et c'est l'exemple qu'il nous donne. Et si on se dit disciple, eh ben, je crois que c'est notre devoir quelque part, c'est exigeant, mais il nous donne les moyens pour le vivre, et il nous donne la grâce pour le vivre au quotidien, les uns avec les autres. Et c'est quelque chose qui est assez enthousiasmant, je trouve. Ça libère quelque chose de nouveau aussi dans la vie de la communauté. Et j'ai envie de vous emmener avec l'équipe, aussi avec ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Ces dernières semaines, il y a beaucoup de gens qui ont parlé par touche comme ça sur l'amour. Blaise a parlé de l'amour comme un carburant par excellence. Hein? Et ça se répète. Ça veut dire qu'on a besoin de l'entendre, on a besoin de ça pour le vivre. Nadine a partagé la semaine dernière par rapport à l'atelier bannière qu'elle a fait, sur ce qu'elle avait reçu en fait dans ce temps, cette bannière où elle avait peint le Cantique des Cantiques 2, hein, l'époux qui appelle, qui dit « Viens ma belle, sors !» Cette bannière qui représente l'intimité, vivre une intimité. Et je crois qu'on en a besoin, et plus peut-être quand on vit des temps difficiles, quand on vit des temps de désert, dans ce que tu citais ce matin, dans le psaume où tu citais, dans le désert. Il y a quelque chose dans nos cœurs, dans un temps de désert, où on recherche la vie, l'eau de la vie, la source de la vie. Et ça passe par l'amour. Pourquoi marcher dans l'amour? Dans cet épisode 2, c'est marcher dans l'amour 2.0, comme on dit pour ceux qui sont un peu plus jeunes, qui ont un peu mon âge, qui savent ce que c'est. Hein. 2.0, ça veut dire que c'est l'amélioration, on va plus loin. Marcher dans l'amour parce que dans Galates 5, verset 6, il est dit que la foi se traduit par des actes inspirés par l'amour. La foi sans les actes, elle est rien. Et puis les actes sans la foi, ils sont rien. L'amour se traduit par la foi se traduit par des actes inspirés par l'amour, par la personne de Jésus. Marcher dans l'amour, parce que c'est une part de notre ADN. Si l'amour, c'est la personne de Jésus, et qu'on devient disciple, qu'on suit Jésus, ça fait partie de notre ADN, ça vient à l'intérieur de nous. Quand on donne notre vie à Jésus, qu'on est une nouvelle créature, comme la parole de Dieu elle le dit, alors notre ADN, il change. Pas naturellement, pas dans la biologie de nos corps, mais dans le côté spirituel de notre dimension, il y a quelque chose de nouveau qui change, il y a quelque chose qui est semé en nous, qui n'était pas là avant, qui vient de Dieu, qui est fait de Dieu, une semence qui vient de Dieu. Et dans cette semence, cet ADN, il y a l'amour comme fruit. Et le passage de Galates 5 parle vraiment de ce que c'est l'amour, l'expression de l'amour, et nous parle, on se dit souvent les fruits de l'esprit, mais en fait c'est marqué le fruit de l'esprit. Il y en a un en fait, le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Je vais vous le lire. Donc la version qui est projetée, elle est un peu différente. Moi j'ai une version qui est un peu plus récente, un peu plus dynamique, la version parole vivante. C'est bien des fois de lire dans des versions différentes, enfin je vous encourage. Ça rend le texte plus dynamique et puis ça permet de comprendre des fois un peu mieux. Et dans la version que moi j'ai, ça dit « Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a pas même besoin d'intervenir. » Waouh ! Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et tous les autres termes qui sont cités après, en fait, c'est des termes qui sont liés au fruit de l'amour. Le terme fruit qui est utilisé dans ce texte-là, en grec, c'est karpos. J'ai regardé ce que ça veut dire. En fait, c'est à la fois le fruit des arbres, naturellement. C'est à la fois, ils disent le fruit de ses reins, donc sa progéniture. C'est le fruit de son travail, et le résultat d'un travail accompli. Donc ce n'est pas juste une dimension du fruit, mais c'est tout d'un coup toutes les facettes de qu'est-ce que c'est qu'un fruit. Et ça nous amène plus loin. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et l'amour, il se manifeste de toutes ces manières-là. Ça, c'est lié à 1 Corinthiens 13 que j'avais cité la dernière fois, que vous connaissez certainement. Et les mêmes termes qui sont cités dans 1 Corinthiens 13, qui parlent du caractère de l'amour, qui parlent de comment se manifeste l'amour en étant patient, en étant bienveillant, plein de bonté, ils s'en foutent pas d'orgueil, etc., etc. C'est les termes qui font écho à ce passage dans Galates 5. C'est les termes qui parfois sont les mêmes et qui se font écho, qui finalement forment un tout. La Bible, elle s'explique par la Bible. Et la Bible, elle répond par la Bible. Et ça, c'est quelque chose de génial. Et si tu ne comprends pas un passage, demande à quelqu'un s'il n'y a pas un autre passage qui pourrait peut-être expliquer celui que tu es en train de lire. Parce que la Bible, elle s'explique par la Bible. Et si tu demandes au Saint-Esprit de t'aider, de t'accompagner dans cette lecture, tout d'un coup, il y a des choses qui prennent une nouvelle dimension. Ça, c'est génial. Je pense qu'il n'y a aucun autre livre qui fonctionne comme ça. Enfin, je le sais en partie parce que je suis libraire, donc on a l'habitude de voir plein de livres. Et franchement, il n'y a aucun autre livre qui est construit de cette manière, qui est à la fois qui est porteur de vie, qui libère un message, mais qui transforme des vies, qui fait des changements qui sont visibles, opérables, et pas juste une fois, mais à chaque lecture. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour dont découlent tous les autres fruits. Et j'aime bien en fait prendre l'image d'une pomme, à dire que ce fruit de l'esprit, c'est comme une pomme en fait. Et l'amour, ce serait comme une pomme. Et à l'intérieur de la pomme, il y a des pépins. Et ces pépins, en fait, ils n'ont pas le potentiel de porter un fruit. Mais chaque pépin à l'intérieur de cette pomme a le potentiel de faire pousser un arbre qui va porter des fruits. Et là, tout d'un coup, ça va aussi plus loin. C'est exigeant. Il y a une multiplication, il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait imaginer. Ce n'est pas un fruit, c'est un arbre qui va porter beaucoup de fruits, qui à leur tour vont porter beaucoup de fruits. Et l'amour, dans cette vision-là, comme voie excellente, comme carburant excellent, dans l'intimité avec Jésus, c'est ça qui produit dans nos vies. C'est ça qui devrait produire dans nos vies. C'est ça qui devrait produire dans ma propre vie. Pas juste être là et se manifester comme une émotion ou un sentiment, mais produire du fruit qui engendre d'autres fruits. Et cet amour-là, il ne peut pas venir de nous-mêmes. Je le reconnais devant vous, et j'espère que chacun d'entre vous, vous pouvez faire ce cheminement-là aussi. Mais je le reconnais, mon amour, il ne peut pas faire ça. Mon amour personnel et humain, il n'est pas capable de faire ça. Quand on est parent, on apprend, on est un peu plus peut-être stretché là-dedans. On se découvre tout d'un coup une capacité à aimer et à pardonner qui n'existait pas avant. Mais quand même, cet amour-là, il n'est pas parfait. Mais l'amour de Dieu manifesté en nous, il produit un fruit qui produit d'autres fruits, qui produisent d'autres fruits. Et ce fruit-là, c'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit qui vient d'en haut. C'est un fruit qui vient d'un royaume qui n'est pas sur terre. C'est un fruit qui n'est pas corrompu. C'est un fruit qui n'est pas seulement parfait, mais qui a un potentiel multiplicateur, un potentiel de vie. Et on a besoin de Jésus. Et la semaine passée aussi, je crois que c'était dans l'Assemblée Générale, au tout début, on avait cité Jean 15. Hein, tu citais Jean 15. Comme quoi, c'est un message qui est là, comme ça, qui se répète en ce moment. Mais c'est pas pour rien, je crois. Parce qu'on a quelque chose à entendre, quelque chose à apprendre, quelque chose dans lequel il nous faut grandir. Dans Jean 15, il est parlé du cep. Et Jésus dit « Je suis le cep de la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. » À tous ceux qui croient, comme moi parfois, que nos propres forces suffisent, cette parole, elle vient pour dire le contraire. On est limité. Et la semaine dernière, j'avais un temps où je priais, je disais « Seigneur, il y a des défis devant moi, je ne sais pas comment faire. » Et puis Jésus, tout d'un coup, il me disait « Tu sais, c'est moi qui ai posé le ciel et la terre comme limite. C'est moi qui ai posé les limites. Si moi qui suis un Dieu illimité, je pose des limites, toi, tu as besoin de savoir poser des limites dans ta vie. » Ok. Waouh, on sert un Dieu qui est sans limite et qui nous rappelle, c'est moi qui pose les limites. Et vous êtes limité. Et vous avez besoin de moi. Et dans Jean 15, Jésus il dit, il faut que sa vie à lui coule en nous et on portera du fruit en abondance. Séparé de lui, on ne peut rien faire du tout. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire des choses. Ça veut dire que ce qu'on va faire, ça ne va pas porter du fruit qui produit d'autres fruits, qui produit d'autres fruits, qui se multiplient. On ne va pas produire du fruit qui demeure. Il dit, si quelqu'un demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Il dessèche, puis on les ramasse, on y met le feu et il brûle. Mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes, dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Ça, c'est le but de porter du fruit qui demeure. Ce n'est pas pour nous, c'est pour lui. C'est pour la gloire du Père, c'est pour que le Père soit glorifié. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de sa vie en nous, parce qu'on ne peut pas glorifier le Père si on ne passe pas par Jésus. On ne peut pas connaître le Père si on ne passe pas par Jésus. On n'arrive pas, on ne peut pas le faire, on n'est pas capable. Mais Jésus, en venant sur terre, nous rappelle que lui, il a fait ce chemin qui nous séparait du Père. Il comble le pas qui manque. Et il dit, tu as besoin de moi pour que le Père soit glorifié. Tu as besoin d'être uni à moi. J'ai besoin d'être uni à toi. Parce qu'il se lie à ça aussi, il nous encourage. De Jésus, le cep coule la vie. En communion avec lui, il y a un amour qui coule pour que nous portions du fruit qui demeure éternellement. Et il dit dans le verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai assigné votre place pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que ce fruit soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en vous recommandant de moi. » Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu en premier. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi en premier. C'est lui qui nous a choisis, qui nous a établis pour qu'on porte du fruit. C'est-à-dire qu'on a tous une destinée, on a tous un but. Et dans ce commandement dont je parlais dans la première partie du message, d'aimer Dieu, ce commandement que Jésus nous rappelle, on a besoin de lui pour le faire parfaitement, complètement. On a besoin de lui, on a besoin de regarder au sacrifice de Jésus et de s'identifier à ce que lui il a fait et d'accepter que ce n'est pas notre part à nous, que c'est sa part à lui. Et juste, c'est la grâce, ça. D'accepter que ce n'est pas nous qui avons fait le premier pas, c'est lui. Et nous, on répond à ce premier pas. Dans Romains 5, il dit que son esprit a rempli nos cœurs de son amour. C'est son amour qui a été versé dans nos cœurs. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et qui continue de le faire encore aujourd'hui. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui choisissons que cet amour-là vienne en nous, mais c'est nous qui répondons à un appel pressant qu'il y a sur le cœur de Dieu, où il a dit, j'ai déjà fait ça, avec mon esprit, j'ai rempli ton cœur de mon amour. J'ai versé mon amour dans ton cœur. Donc, si on se pose la question pourquoi on n'a pas cet amour, si on se pose la question comment cet amour peut venir, la réponse, elle est là. Le Saint-Esprit a rempli nos cœurs de son amour et il veut le faire encore. C'est un acte qui est continuel, perpétuel, qui peut se répéter. Il n'a pas fait une fois pour toutes. Il a donné sa vie une fois pour toutes. Mais son esprit, c'est comme une source qui tarit jamais, qui amène cet amour, qui continue, qui continue, qui continue. Ça, c'est génial. Ça aussi, on n'est pas capable de le faire. Mais on connaît celui qui a la provision qui ne s'épuise jamais. Et la provision d'amour dans le cœur du Père, elle ne s'épuise jamais. Parce qu'il est amour, parce que c'est sa nature. Il n'y a rien ni personne qui peut changer cette nature-là envers chacun d'entre nous. Il n'y a rien qui peut nous séparer de cet amour. Comment demeurer en lui alors ? Comment recevoir et garder cet amour ? Et ça, c'est le cœur du message de ce matin, le cœur de ce que j'ai envie d'apporter, parce que je crois que c'est ce qu'il y a sur le cœur de Jésus. Et ça a été déjà, on a commencé une amorce dans le temps de louange, et merci à ceux qui étaient là, qui étaient à l'écoute aussi. Il y a une interpellation dans Apocalypse 2 qui parle de l'amour, qui parle de ce que c'est vraiment cet appel à revenir au premier amour. Dans cette lettre que Jean il écrit, c'est une révélation qu'il reçoit. Et il dit, je sais parfaitement tout ce que tu as fait. » Il parle à différentes communautés, et là, il parle à une communauté en particulier. Et en préparant ce temps, j'avais l'impression que c'était à la fois pour chacun en tant que personne, mais je crois que c'est pour la communauté de l'oratoire ce matin. Il y a une parole forte pour dire « Je sais parfaitement tout ce que tu as fait. Je connais ta conduite et tes œuvres, tes travaux, ta peine et ton endurance. » Je n'ignore ni tes fatigues, ni la patience dont tu fais preuve. Je sais aussi que tu ne peux souffrir les agissements des méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as convaincus de mensonges. Tu as démasqué leur imposture. Tu as prouvé que tu savais supporter bien des souffrances et porter bien des fardeaux à cause de moi. Tu ne t'es ni découragé ni lassé. J'ai cependant un grief contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Votre amour des uns pour les autres s'est relâché. Allons, rappelle-toi quelle hauteur tu es tombé. Rentre en toi-même, change d'attitude et vis de nouveau comme au commencement. Reprends ta conduite première. Retourne à tes œuvres originelles. Si tu ne changes pas, j'agirai. Je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place actuelle, à moins que tu ne rentres en toi-même et que tu ne changes. C'est un appel qui est fort. Enfin, pas juste pour moi dans ma vie, mais je sens vraiment qu'il y a cet appel pour la communauté. Nadine, elle parlait vraiment au travers de ce dessin qu'elle a fait sur cette bannière, de rentrer dans une intimité nouvelle avec Dieu. Et puis souvent on dit « oui, ok, d'accord ». J'ai envie de prier, j'ai envie d'aller plus, de connaître plus Dieu. Mais je crois qu'il y a une interpellation forte. Et les gars, est-ce qu'on n'a pas perdu quelque chose en route? Est-ce qu'on n'a pas perdu quelque chose en route qui est essentiel, dont on a besoin, dont j'ai besoin pour vivre et pour le libérer à l'extérieur? Et si je ne l'ai pas à l'intérieur de moi, si je ne l'ai pas à l'intérieur de ma communauté, je ne peux pas le libérer. Je ne peux pas libérer ce que je n'ai pas. Et ça, je ne l'invente pas. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas le donner. Et je crois, dans cette interpellation, il y a quelque chose qui corrige, mais la parole de Dieu, elle amène en même temps la consolation, elle amène tout ce dont on a besoin pour grandir et pour aller de l'avant. Que ce soit dans nos vies ou que ce soit dans notre vie en communauté, de revenir à ce premier amour. Et je ne veux pas juste le laisser comme ça, maintenant chacun se débrouille, c'est la responsabilité de chacun, ça c'est vrai. Mais j'ai vraiment demandé à Dieu, mais comment? Et puis, qu'est-ce que tu veux dire dans la vie de chacun? Qu'est-ce que tu veux dire dans la vie de cette communauté? Et ça m'a parlé quand Nadine elle a présenté cette bannière et elle a parlé du Cantique des Cantiques. Je me suis rappelée en fait de plusieurs choses qui sont liées à ça. Et je nous invite à prendre, on va lire plusieurs passages du Cantique des Cantiques, à lire ce texte, pas juste comme un homme vis-à-vis d'une femme, mais de lire ça comme l'époux vis-à-vis de l'Église ce matin. De prendre ça dans nos vies et dans notre vie de communauté. De lire ce qui est dit comme nous qui sommes l'épouse qui répond à un appel de l'époux. Et je crois que ça va au-delà de ce qu'on a vécu dans l'intimité ce matin, dans le temps de louange. Il y a une interpellation de l'époux envers l'épouse, qui est l'Église. Et j'ai envie d'encourager les hommes ce matin qui peut-être se disent « Ah, je ne me sens pas concernée, c'est difficile pour moi de voir », de demander à Dieu une révélation par rapport à ça, parce que ça vous touche aussi, parce que ça vous concerne aussi. Et dans le message qu'elle a partagé, Nadine, la dernière fois, elle parlait du féminin et du masculin. Je crois ce matin qu'on va aller plus loin là-dedans, en dire que c'est l'épouse, le côté féminin, qui va répondre à cet appel de l'époux, qui est le côté masculin. Et ça, on l'a tous à l'intérieur de nous. OK ? Et même si moi, je suis une femme, ça ne veut pas dire que c'est plus facile pour moi de répondre à cet appel. Et si tu es un homme, tu peux répondre à cet appel dans ta partie à l'intérieur qui a besoin d'être connectée avec Dieu. Même si tu es un homme, ça ne veut pas dire que tu vas devenir une épouse, mais tu fais partie de l'Église, et l'Église, c'est l'épouse. Et ce matin, l'époux, il dit quelque chose à l'épouse. Parce que lui, il n'est pas satisfait d'en rester là. Quand il dit « t'as perdu ton premier amour », il dit « moi, j'ai envie que tu retrouves ce premier amour ». dans ta vie, dans ta communauté, parce que j'ai des choses à faire avec toi, parce que j'ai des choses à te dire, à transmettre, des trésors cachés. Tu as été créé pour un temps comme celui-ci, en tant que personne et en tant que communauté. On a été créé pour un temps comme celui-ci. Je crois qu'il y a un potentiel à libérer dans ce temps, dans un temps de désert, on crie à Dieu, en étant désespéré, il y a une faim, une soif qui grandit en nous. Je ne dis pas qu'il faut absolument aspirer au désert dans nos vies, mais quand il y a un désert qui vient, comment choisir mon attitude dans mon cœur? Comment en tant que communauté on choisit notre attitude? Et moi je crois qu'il nous interpelle, l'époux, de choisir pour un temps de faire grandir notre faim et notre soif de lui, pour revenir à une intimité à laquelle lui, il aspire en premier. Parce que c'est lui qui nous a aimés en premier, c'est lui qui nous a choisis en premier. Et il a envie de libérer son cœur d'époux dans cette partie de l'oratoire qui est une partie de son corps, qui est l'Église. Et le Cantique des Cantiques, c'est un livre qui a pu être lu à plusieurs niveaux, et ce matin, je vous encourage de le lire comme ça, comme l'époux vis-à-vis de l'épouse. Et ce matin, on va prendre un temps après et juste qu'on prépare nos cœurs pour recevoir et pour répondre. Comment est-ce qu'on veut répondre à l'époux dans nos vies, en tant que personne et en tant que communauté? C'est notre bien-aimé, Jésus, ce nom si merveilleux, ce nom au-dessus de tout nom, qui dit quelque chose au travers de cette image qu'il utilise. Dans le chapitre 2, verset 3, il dit « Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. » Et Jésus, cet arbre de vie, cet arbre qui produit le fruit de l'amour, qui engendre d'autres fruits, il est comme ce pommier au milieu d'autres arbres dans la forêt. Il porte du fruit. Jésus porte du fruit. Et nous pouvons être au bénéfice de ce fruit. Pas juste pendant un temps, mais tous les jours, en étant connectés avec lui. En répondant à cet appel que lui fait envers nous. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. En lisant ce texte, je me disais, la maison du vin, c'est là où il y a l'esprit. Hein? Une nouvelle outre pour contenir un nouveau vin, quelque chose de nouveau dans l'esprit. Il nous fait entrer dans cette maison du vin pour vivre une dimension nouvelle. Et il dit ensuite, « Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Sa bannière sur nous, sa bannière sur nos vies, sur notre communauté, c'est l'amour. Il y a un dépôt d'amour que l'époux veut faire ce matin dans ta vie et dans ta communauté, dans cet endroit où on est rassemblés, parce qu'on en a besoin pour vivre cet amour les uns avec les autres, pour libérer cet amour dans le monde. Et il nous fait une promesse que sa bannière sur nous, cette protection, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose qui nous apporte, qui nous sécurise, sa bannière sur nous, c'est l'amour. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens, car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits. Tous les fruits dont on a parlé avant. Ce fruit qui engendre d'autres fruits. Embaume à cause de ce que Jésus veut libérer dans nos vies, à cause de ce que Jésus veut libérer dans cette communauté. Et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Il nous appelle et nous dit, viens en tant que personne, viens dans mon intimité. Si tu as besoin de savoir comment demeurer en lui, si j'ai besoin de savoir comment demeurer en lui, comment recevoir et garder cet amour, il y a cet appel où il me dit, viens, viens dans ma présence, viens avec moi. Arrête de te cacher. Sors de cet endroit où tu t'engouffres. Sors. Il dit, fais-moi voir ton visage. Fais-moi entendre ta voix. Il dit, viens comme t'es, mais montre-toi à moi. Parce que moi, je veux me montrer à toi. Et des fois, on a tellement tendance, dans des temps difficiles, ou dans les temps de désert, de se cacher, de se recroqueviller, sur nous-mêmes. Et en fait, cet appel de Jésus, plein de compassion, plein d'amour pour nous, il dit, viens, j'ai pas honte de toi. Viens tel que t'es. J'ai pas peur. Montre-moi ton visage. Montre-moi comment t'es vraiment. Montre-moi l'état de ton cœur. Fais-moi entendre ta voix. Parce que ta voix est douce et ta figure est agréable. Et il n'y a que lui qui peut dire ça des fois. Même nous, quand on se regarde dans un miroir, des fois on ne s'aime pas. Il n'y a que lui qui peut dire ça. Et on peut répondre à cet appel. On peut faire ce choix, chacun et en communauté, de répondre à cet appel. Cet appel, il est lancé depuis bien longtemps déjà. Et il n'y a pas encore de stop. Il n'y a pas encore de fin à cet appel. Ça veut dire qu'on peut encore répondre oui. On peut encore venir tel que nous sommes. Et alors qu'on vient, c'est là qu'on va être transformé. Il ne nous demande pas de venir en étant déjà transformé. Parce qu'il sait que ce n'est pas possible. Il sait qu'on ne peut pas le faire sans lui. Et lui, il veut tellement, tellement nous transformer lui-même. Tellement nous changer lui-même. Et il a conscience de ça. Il dit, viens, sors de ta cachette. Viens dans ma présence. J'ai des choses à te dire. Viens dans mon intimité, réponds à mon invitation, tout simplement. Comme un enfant, quand on l'appelle, il vient. Pourquoi des fois moi, quand Dieu m'appelle, je dis non, mais j'ai pas le temps, j'ai trop de trucs. Puis tu comprends, là, je suis pas assez prié cette semaine, du coup, voilà, c'est difficile de t'entendre. Il dit, mais tant pis, viens quand même comme t'es. J'ai envie de te parler, j'ai envie de parler à ton cœur. Il faut bien commencer quelque part. Et ce commencement, c'est lui qui l'amorce. C'est lui qui dit, viens. Et on peut rentrer dans cette intimité avec lui, petit à petit. Je crois que c'est un chemin, je crois que c'est un processus. Et dans ce processus, c'est comme dans un processus naturel où il y a des semences qui viennent. On veut garder ces semences, on veut garder ces petits commencements précieux. Et il y a une mise en garde au verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Et si dans notre intimité, dans notre chemin d'intimité avec Dieu personnel ou en communauté, on ne prend pas garde, alors dans ce qui est en train d'être semé, dans ce qui est en train de porter du fruit, il y a des renards qui viennent, des petits. En plus, ils sont tout petits, on dit « Ah, ils sont mignons !» Mais non, ils font des ravages. Ne pas nous laisser grignoter dans nos champs ce qui est en train d'être semé par cette interpellation à laquelle on est en train de répondre. Même si c'est un petit commencement. Justement, ça commence par une graine. Et si cette graine, elle est mangée par un oiseau ou par un insecte ou n'importe quoi, ça ne portera pas du fruit. Le responsable du champ, Michel, il pourrait le dire, il prend des dispositions. Dans nos vies, c'est la même chose, je crois. Dans tous les domaines, on doit prendre des dispositions pour que ce que Dieu amorce dans son appel et ce qu'il est en train de semer, on puisse le protéger, se rendre compte qu'il y a besoin de le protéger pour que ça puisse vraiment entrer en terre et porter du fruit. Dans le champ de nos idées, de ce qui est en train d'être amorcé, dans des relations, dans le potentiel que Dieu met en nous et qui est en train d'être levé parce que sa parole, elle le fait, dans les processus de guérison, dans tout ce qui est en bourgeonnement dans nos vies, prenons garde à ces petits renards. Ça peut être une parole des fois, ça peut être une relation, ça peut être une personne, ça peut être une occupation, ça peut être quelque chose qui nous, comment on dit, qui nous fait dévier du chemin. Des fois, c'est vraiment, c'est des petites choses, c'est comme un grain de sable dans un rouage. C'est comme un petit renard qui est mignon, mais qui fait des ravages. Il y a cette interpellation dans ce message, dans ce que Jésus est en train de faire dans nos vies personnelles et dans la communauté, de dire « Ok, on veut prendre des choix, enfin on veut faire des choix, on veut prendre des décisions où on laisse pas l'accès à ces petits renards pour que ces fruits, pour que ces semences de vie puissent porter du fruit, que ce fruit puisse engendrer d'autres fruits dans nos vies. Et en premier, dans cette intimité avec lui, dans cette intimité avec l'époux. Et ça va tellement vite dans nos vies. Je suis la première concernée. Je me rends compte, et vraiment cette semaine où Dieu me disait, mais Noémie, c'est moi qui pose les limites. Je me disais, oh, ouais, c'est pas moi qui pose les limites, mais c'est toi, Seigneur. Et je veux être humble devant toi, et je veux dire, ok, j'ai besoin d'avoir des limites parce que j'ai besoin d'avoir ce temps avec toi. Et ça peut prendre plein de formes. Ça peut s'exprimer de plein de manières. Autant on est différents les uns des autres, autant je pense l'intimité qu'on peut vivre avec Dieu, elle se manifeste différemment. Là où on peut être, chacun, vraiment, sur ta voiture, ton scooter, ton tracteur, ton vélo, à pied, dans le bus, chez toi, dans tes toilettes, dans ta salle de bain, dans ta cuisine, avec tes enfants, sans tes enfants. De toutes les manières, on peut vivre cette intimité avec Dieu. Parce que lui, il n'a pas de limite et il va voir notre cœur et c'est ça qui va l'intéresser. Il ne va pas être arrêté par le reste. Mais des fois, il y a besoin de prendre des temps où on est juste en un à un avec lui. Pas juste dans notre cœur, dans nos pensées, mais des fois, ça peut être aussi physiquement. Mais il y a besoin de faire ce choix. Ok, je veux prendre un moment à part. Pour que ce que tu veux déverser en moi, ça prenne de la place et que ça puisse être en profondeur pour porter du fruit. Pour que ce fruit de l'amour puisse engendrer d'autres fruits et que ça se manifeste dans ma vie, que ça soit libéré. Revenir à ce premier amour et répondre à cette interpellation qu'il y a dans Apocalypse, c'est un acte d'obéissance, c'est un choix et un engagement. Et Jésus, lui, il a déjà fait sa part, et il a déjà fait son choix, il s'est déjà engagé et la porte, elle est ouverte et nous pose juste la question. Reviens à ce premier amour. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux venir vers moi? Est-ce que tu peux répondre à mon appel? Ça, c'est ta réponse personnelle dans ton temps avec lui. En tant que communauté, c'est notre réponse à tous vis-à-vis de lui. Et on a besoin de l'aide du Saint-Esprit qui veut faire ce chemin avec nous et qui veut libérer cet amour dans nos cœurs pour que ça puisse prendre racine, qui veut libérer sa présence et qui veut nous accompagner dans ce cheminement, pour que ça produise du fruit dans notre caractère, dans notre cœur, dans nos vies, dans nos actions, et que ça soit libéré. Que la vie de Dieu en nous, elle puisse couler, qu'elle puisse bénir, et qu'elle puisse glorifier le Père. Comme dans Jean 15, c'est dit, c'est notre but dans la vie. Si tu ne sais pas quel est ton but dans la vie, alors relis Jean 15, parce que c'est clair, tu as été créé pour glorifier le Père. Et tu peux suivre cette marche à suivre, pas après pas, et il veut t'accompagner. Et ça, c'est le plus grand but de notre vie. C'est la raison pour laquelle on a été créé. Parce que lui, il a eu un désir, et il a parlé une parole, il a lancé un message, et à nous de répondre aujourd'hui, en tant que personne individuelle, en tant que famille peut-être, en tant que communauté, de répondre à cet appel. Pour que ce fruit qui va grandir en nous, qui va grandir dans nos familles et dans notre communauté, ce soit un fruit qui demeure. Ce ne soit pas un fruit qui est juste là une saison, mais ce soit un fruit qui se renouvelle, saison après saison. Des fois, il n'a pas le même aspect ce fruit. Il change un peu, hein, il se modifie. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne revient pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres fruits. Parfois, il y a des années qui sont moins bonnes et l'année d'après, c'est une année excellente. Je pense que c'est pareil dans nos vies. Et il y a ce côté où Dieu il veut faire cette œuvre en nous. Il y a ce fruit qui demeure. Quand le fruit demeure, ce n'est pas le même fruit tout le temps, mais c'est le potentiel de reproduire du fruit qui demeure. Et peut-être on aime d'une manière aujourd'hui, peut-être on agit d'une manière aujourd'hui et on peut, avec l'aide de Dieu, avec cet amour qui est libéré en nous, faire grandir ce fruit, et il va se transformer. Et si tu arrivais à aimer une personne, peut-être tu arriveras à aimer deux personnes, peut-être 10 personnes. En vérité, vraiment. Pas juste émotionnellement, mais en vérité, en acte. Cette foi qui se manifeste au travers de l'amour. Parce que ce fruit, il n'est pas pour nous-mêmes. Ce fruit, il est pour les autres. Je pense qu'un arbre, il ne se nourrit pas de ses propres fruits. Mais les fruits sont à disposition. Et ceux qui vont passer aux abords de cet arbre, ils vont pouvoir être au bénéfice des fruits. Et je pense que dans nos vies, c'est pareil. Et dans nos communautés, dans notre communauté, ça doit être la même chose. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des arbres qui portent des fruits qui sont à disposition des autres. Et ça, ça veut dire qu'il y a un travail de croissance en nous, en moi, qui est en train de se faire, un processus. Et pour ça, il faut cette intimité avec Jésus. Il faut répondre à cet appel, personnellement et en communauté. Et puis ce matin, j'ai envie de nous encourager. Alors qu'il y a vraiment cet appel du cœur de Jésus qui est libéré, alors qu'il y a ce cri de son cœur qui retentit depuis le moment où on a eu le temps de louange jusqu'à maintenant encore, ça continue. Peut-être qu'il y en a qui ont été touchés, peut-être qu'on a reçu quelque chose. Demande à Dieu de dire ce que ça veut dire. Demande à Dieu de libérer le potentiel qu'il y a dans cette parole pour que ça porte du fruit dans ta vie. Je recevais une première pensée par rapport au sacrifice d'Abel, en fait. Pourquoi est-ce que le sacrifice d'Abel, il a été accepté, pas celui de Caïn? Ça a souvent été une question dans ma vie. Et là, ce matin, dans le temps de louange, c'est comme si Dieu me disait, Abel, il a compris quelque chose dans son cœur, par la foi. Dans Hébreux 11, c'est dit... C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. En fait, le sacrifice d'Abel, c'est comme si Dieu me disait ce matin, c'est un acte d'amour qu'il a fait. C'est un acte qui s'est manifesté, qui a manifesté cet amour. Il a cru, et parce qu'il a cru, il a été capable d'offrir à Dieu quelque chose qui lui faisait plaisir à cause de sa foi. Et c'est valable pour nous aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre que notre foi qui peut faire plaisir à Dieu. Il n'y a rien d'autre que ta foi. Peut-être que tu crois que ta foi, elle est nulle. Mais ta foi, elle a le potentiel de faire plaisir à Dieu. Et de cette foi, il y a cet amour qui peut se manifester. Lui, il désire une connexion avec toi. Et toi, est-ce que tu désires une connexion avec lui? Et ce matin, il y a cet appel. C'est toi qui lui réponds. Personnellement, là où tu en es dans ton cœur, mais réponds de la manière où ton cœur est en train d'être touché à cet appel. Jésus, il se révèle comme l'époux. Il ne vient pas sauver l'Église, il ne vient pas sauver son épouse, il vient la chercher parce qu'elle est prête, parce qu'elle est belle, parce que son cœur et son caractère ils répondent à son appel. Et ça fait une différence. Ce matin, j'ai envie de nous interpeller, d'aller plus loin et de nous poser cette question. Comment est-ce que je me vois dans cette épouse? Est-ce que j'ai besoin qu'il vienne me sauver ou est-ce que je veux répondre à son interpellation? Parce que cette interpellation-là, c'est l'interpellation de l'intimité. Et c'est la vraie réponse qui ouvre une connexion avec Dieu. C'est la vraie réponse qui ouvre une relation. Et on chantait dans un chant ce matin que le voile il a été déchiré lors de la résurrection et je recevais une image, je voyais l'épouse qui s'avance et souvent quand il y a un mariage, elle a un voile devant les yeux. Hein, et l'époux il vient et il enlève ce voile. Et je crois que c'est ce qu'il veut faire ce matin sur l'épouse qu'on représente. Il veut ôter ce voile. Pas pour la sauver, mais pour voir son visage. pas pour la libérer, mais pour la connaître dans l'intimité. Une intimité qui est plus profonde. Parce que Jésus, il aime cette épouse et il veut la connaître ardemment. Est-ce que nous, on veut répondre à cet appel ce matin ? Et je veux juste prier et Joël va nous conduire juste dans ce temps où chacun on peut répondre personnellement. Merci Jésus parce que tu désires une connexion avec nous et ce matin tu nous appelles, tu nous attires hors de ces zones cachées, hors de ces zones d'ombre. Tu nous attires en tant que personne, en tant qu'épouse pour voir notre visage, pour entendre notre voix, pour toucher nos cœurs et libérer ce que toi tu veux nous dire. Et Saint-Esprit, je te demande de venir ce matin et de faire sortir ceux qui ont besoin de sortir de ces rochers, ceux qui ont besoin de montrer, de te montrer leur visage, qu'ils puissent sortir ce matin, qu'ils puissent être libérés dans leur vie, parce que c'est l'œuvre que toi tu fais en appelant à toi. Alors qu'ils répondent, alors que nous répondons à ton appel, Jésus, que cette épouse que nous représentons chacun et en communauté, qu'elle puisse être visible, qu'elle puisse sortir de sa zone cachée, que ce voile tombe. Viens nous rencontrer ce matin, Jésus. Tel que nous sommes, qu'on puisse faire cet acte de foi qu'Abel a fait, de lever une offrande qui est réelle, qui est sincère, qui est le fruit d'une connexion avec toi, qui est le fruit d'une foi qui se manifeste et qui crée plus de connexion, plus d'intimité avec toi, que toi tu peux recevoir au travers de la foi de chacun, dans les situations qui sont difficiles, dans les temps de désert. Reçois cette offrande, qui est une offrande d'amour. Viens faire cette œuvre ce matin, Jésus. Sois libéré, Saint-Esprit.